des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, on parle de la figure du père qui est au centre de deux des romans qui sont parmi les plus puissants de cette rentrée littéraire de janvier. Celui de Régis Geoffrey, Papa, qui paraît au Seuil avec sur la couverture la séquence du film qui a déclenché le livre, séquence où l'on voit un homme arrêté par la Gestapo en 1943. Il n'avait jamais parlé de cet épisode à son fils, Régis Geoffrey. Et bien voilà, le livre va lui redonner la parole, au fils d'ailleurs, comme au père. Et le roman de Yegor Gran, Les services compétents, qui paraît chez POL, on y découvre aussi un père sous la terreur, mais soviétique. Cette fois, il s'appelait Andrei Siniavski. Il était écrivain. Deux livres d'héritiers qui assument dans leur récit leur héritage et qui écrivent peut-être parce qu'ils l'assument cet héritage, au point, par la fiction qui permet tout, d'engendrer à leur tour celui qui les a engendrés, leur père, puisqu'il s'agit de les faire naître dans l'esprit et le cœur aussi des lectrices et des lecteurs. Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour.
Bonjour Yegor Gran.
Bonjour.
Alors vous êtes d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez bien tous les deux, mais vous êtes lauréat du Grand Prix de l'humour noir.
C'est vrai, on est tous les deux très fiers de ce prix-là. On est toujours tous deux très fiers.
Ouais, est-ce que ça crée une sorte de communauté d'esprit? Il y a un club d'ailleurs des anciens lauréats.
Un club à ma connaissance.
Non, mais je crois que clairement on est plutôt du même côté de la littérature. Ouais. Celle qui prend une certaine distance par rapport à nous-mêmes déjà, celle qui ose peut-être rire de tout, voilà.
Vous savez, il y a peut-être deux sortes d'écrivains et c'est pas une accusation envers quiconque. C'est ceux qui
mentent. Quand on dit ça souvent, c'est que
c'est parce que ce que je veux dire, c'est ceux qui mentent et ceux qui ne mentent pas. Mais ceux qui mentent, c'est pas forcément des menteurs. Mais on peut avoir peur du réel. On peut avoir peur de voir le réel tel qu'il est. Voilà, c'est pas du tout une question de. On peut créer un monde complètement imaginaire qui n'est pas du tout hanté sur le réel. Puis il y a des gens qui sont dans l'imaginaire complet, mais qui ont un imaginaire hanté sur le réel. Je pense que c'est le.
Vous croyez encore à la coupure réel, imaginaire, sachant que souvent les. Oui, voilà.
Parce que c'est. Pas du tout. C'est simplement. Ouais. Moi, je me sens pas être dans le maquillage. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai parlé de mon père, pour moi, c'était invraisemblable que j'y arrive. Mais à partir du moment où je le faisais. J'ai pas maquillé les maladies qu'avait mon père, par exemple, et qui n'étaient pas forcément des choses très.
Son
très
physique d'ailleurs. Ni son physique.
J'ai été même assez dur, mais je pense que pour le faire surgir, bon, l'important c'était de le faire surgir, puisqu'il n'était plus là, donc on est bien obligé de le faire surgir. C'est pas l'imaginaire, c'est simplement quand vous parlez de quelqu'un qui n'est plus, c'est pas l'imaginaire, mais il faut bien que vous donniez des images pour le faire apparaître. Mmh.
Yegor Gran, sur cette idée de non-maquillage quand on écrit son père.
Je trouve que la fiction a tous les droits et la fiction est bien meilleure et plus intéressante et sympathique que le réel. Elle aide à comprendre le réel, de toute façon mieux que le réel. Mais qu'est-ce que c'est le réel? C'est quand même fou, on vit à l'ère du fake news. Ou même vous, quand vous écrivez votre CV, vous faites du fake news, vous faites du mensonge par omission. Tout est mensonge. LinkedIn est une énorme usine à mensonges. Et après, on nous dit, voilà, vous avez inventé des trucs. Bah oui, on invente des trucs, mais moins que LinkedIn, voilà. Moins que votre CV.
Voilà. Alors, Yegor Gran, vous êtes, alors, comme votre nom ne l'indique pas, le fils d'Andrei Siniavski, écrivain russe, dissident, au temps de Khrouchtchev et de Brejnev, surveillé par les services compétents, entre guillemets, de la Russie soviétique, d'où le titre de ce roman dont les premières pages vous mettent d'ailleurs en scène sous la forme d'un bébé. Mis dans les bras d'un agent soviétique venu perquisitionner chez vos parents. Le chef, celui qui orchestre cette perquisition, est lieutenant, il s'appelle Ivanov, et il doit découvrir qui se cache derrière le pseudonyme d'Abraham Terts, écrivain dissident qui s'échine à faire passer ses nouvelles fantastiques en Occident, dans lesquelles il ironise sur le fameux réalisme socialiste. Votre livre s'ouvre sur cette perquisition dans un appartement de Moscou. On est en 1965 et ce lieutenant du KGB est déboussolé par l'assurance de la femme qui lui ouvre la porte, qui se trouve devant lui, qui se démonte absolument pas, elle s'appelle Rosanova, et on lui annonce que son mari vient d'être arrêté, mais elle se tient très droit. L'homme qui vient d'être arrêté, donc, c'est votre père, et cette femme pleine d'assurance, c'est votre mère, et vous donc, ce bébé de 9 mois, qu'elle tend à l'un des agents, le temps, dit-elle, de mettre un peu d'or dans l'appartement. Étrangement, vous choisissez comme personnage principal de cette aventure dédiée à votre père, à ce qui lui est arrivé, de mettre finalement en scène, non pas lui, même si évidemment il apparaît, non pas votre mère, même s'il apparaît, mais ce lieutenant Ivanov, dont on suit les péripéties au sein de ses services compétents, quand bon lauréat du prix de l'humour noir, vous passez à la moulinette, avec beaucoup d'humour très noir, vous passez à la moulinette le manque de moyens, la logique butée, l'absurdité de ce service, d'autant qu'à cette époque-là, au moment où ça se passe, la culture occidentale ou capitaliste, comme on dit, sous toutes ses formes, s'introduit dans la forteresse URSS. Alors on ne sait plus, en vous lisant ou donner de la tête entre ces commentaires littéraires, puisqu'il s'agit aussi de faire de l'analyse littéraire pour savoir si ça si c'est offensant justement pour les canons soviétiques ou si ça ne l'est pas. On se perd aussi dans les pseudonymes. Abraham Terts, André Sinyavsky, qui est son vrai nom, mais écrit par Yegor Gran. C'est un pseudonyme, Yegor Gran?
Alors, Yegor, c'est mon vrai prénom. Gran, c'est le nom de ma femme. J'ai pris ce nom dès mes premiers balbutiements littéraires. En envoyant le manuscrit, déjà, quand j'ai envoyé mon premier manuscrit, j'ai mis Yegor Gran. Tout simplement, d'ailleurs, je trouve ce nom magnifique. Ça sonnait très, très bien, Yegor Gran. J'ai demandé la permission à ma femme, qui n'a pas hésité plus que ça, qui m'a autorisé à l'utiliser. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez parlé donc des personnages, ils sont tous réels, hein, Ivanov. Ouais.
Vous l'avez trouvé dans le dossier de perquise, en fait, dans la lettre de perquise.
Oui, il signe le compte-rendu de perquisition. Quand on vous confisque des livres, des objets, eh bien, j'imagine qu'ici, ça se passe pareil, il faut demander à ceux qui ont eu déjà des perquisitions, mais là-bas, dans un état...
Régis Geoffrey, peut-être, non? Parce qu'il y a eu, vous avez eu maille à partir avec la justice à cause de vos textes.
Non. Voilà. Donc il signe le compte-rendu de perquisition avec tous les objets confisqués, avec tous ses copains, le capitaine Nikonovitch, l'opérationnel Shmakov, etc. Et ils ont tous signé, moi j'ai repris ces personnages, j'ai mené une petite enquête, ils sont tous réels, et ils ont eu une carrière, pour certains, brillante, puisque le lieutenant Ivanov, qui était tout jeune, quand il me tenait dans ses bras, j'avais 9 mois, lui a fini général quand même du KGB, commandant la 5e section, celle chargée de la répression de la dissidence sous Andropov.
Et donc tous ces personnages sont réels et on les suit, donc c'est leur point de vue, hein. Vous avez choisi ce camp-là, en tout cas narrativement parlant.
Oui, alors parce que l'idée c'était de parler de l'époque et du pays en général. Je voulais vraiment, c'était une ambition. Et qu'est-ce qui caractérise cette époque? C'est la moelle épinière. Le KGB, c'est la moelle épinière invisible. Vous avez une moelle épinière, je suppose, Christophe?
J'espère.
Moi aussi, sauf qu'on n'y pense jamais, sauf quand on a un accident de ski. Exactement. Ou un truc très malheureux. Eh bien, cette colonne vertébrale, cette moelle épinière, c'est le KGB dans la société soviétique. Et les yeux de la moelle épinière, si je peux m'exprimer ainsi, regardent, palpent tout. Et si vous franchissez une certaine ligne jaune, c'est là qu'ils interviennent. Ouais. Sinon, ils restent invisibles, comme votre moelle épinière.
On parlera justement de la façon dont vous avez procédé, justement, pour les faire parler, si je puis dire, en retournant encore le paradigme. Ils existent, mais bon, vous n'étiez pas là. Par définition, pour entendre leurs conversations, même si vous avez lu beaucoup, vous citez d'ailleurs vos sources. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on les voit totalement dépassés, puisque l'époque n'est plus justement malheureusement au contrôle. En fait, tout devient incontrôlable.
Là, ce qui est passionnant, c'est que l'histoire hésite. On est à un moment, c'est post-Staline, l'ère glaciaire est terminée, il y a un petit printemps qui s'installe, mais doit-on montrer le communisme à visage humain et donc moins de répression, plus de rééducation, ou doit-on quand même sévir sur ces abrutis d'intellectuels qui nous pourrissent la vie en publiant des choses vraiment limites?
Régis Geoffrey.
Oui, on dirait que maintenant, c'est un peu l'Occident qui les dirige. Parce qu'à partir du moment où on se demande, où on se pose la question, est-ce qu'on va lui plaire, l'Occident, finalement? Est-ce qu'on va pas trop lui déplaire? C'est la fin d'une dictature qui s'occupe finalement de l'adversaire. Parce que là, ils ont peur que, justement, votre père, ça pose un problème. Et d'ailleurs, ça leur en pose un problème énorme. Je n'ai pas la mémoire des noms, mais cet écrivain soviétique qui a le prix Nobel.
Sholokhov.
Voilà. Ah oui, quand il a eu, on ne lui parle que de votre père. Oui. C'est curieux parce que là, ça leur fait peur. Alors qu'on n'imagine pas sous Saline que ça leur ait fait peur. Ouais. Déjà, il ne l'aurait pas envoyé. Ils l'auraient gardé chez eux.
Leur idée, quand même, c'est pas tant de plaire à l'Occident. Ça, l'Occident, ils savent bien. Enfin, c'est un ennemi idéologique. Non, c'est de noyauter l'Occident via, par exemple, les partis communistes frères. Le PCF à l'époque, le PCI italien, sont des partis immensément puissants qui recrutent beaucoup. Eh bien, ils veulent présenter un communisme plutôt, on va dire, bon enfant. avec un idéal moins de pauvreté, plus d'égalité des classes. Voilà, a priori, qui serait contre ? Et recruter quand même beaucoup, beaucoup en Occident.
C'est ça que je voulais dire, plaire. Voilà. Je voulais dire, leur image leur importe.
Voilà. Et je parlais à Régis Geoffrey de Pasternak, donc il est beaucoup, dont il est beaucoup question dans les services compétents, parce que lui aussi, on ne sait plus très bien ce qu'on doit le critiquer, puis finalement l'aimer. On oscille sans arrêt. Je voulais juste vous demander, même si on développera ça, c'était important de choisir cet angle, justement, de faire parler l'autre camp, celui qui a finalement traqué votre père, qui est responsable quand même de la tragédie familiale, parce que je rappelle que en février 66, votre père a été condamné à la déportation, donc il a passé 7 ans dans les camps. Alors, il est revenu brisé, mais en même temps totalement galvanisé par l'humanité qu'il a vu là-bas.
Physiquement brisé, mais ça,
on en reparlera. Mais de mettre le père à distance, finalement, est-ce que c'était par pudeur, par commodité, parce qu'il était peut-être trop encombrant, parler l'autre camp
non,
plutôt que lui.
Il n'y a rien de par rapport à papa. C'est juste que si on veut décrire cette époque, et vraiment, et c'est une époque formidable. C'est une sorte d'explosion. On dit l'explosion biologique a eu lieu au précambrien. Non, elle a eu lieu en Union soviétique entre 59 et 65. C'est-à-dire que avec ce petit vent tiède qui a soufflé sous la porte du rideau de fer fermé, eh bien, les bactéries, les humains ont commencé à proliférer et ont commencé à dealer des choses, à s'échanger des livres, à rêver.
Les dissidents donc, pouvaient nous en parler. Vous avez choisi donc, plutôt c'est le KGB qui nous raconte
l'histoire.
Oui, parce
que le KGB est au four et au moulin. Ouais. Il se demande, il est à l'image de cette époque. Que faire de tous ces gens ? Et donc, ils sont débordés par cet ouragan de consumérisme. Ils ont juste entrouvert une petite fente dans la porte et ça y est, il y a déjà des germes qui sont passés et qui contaminent tout.
Et est-ce que c'est aussi le fait de choisir ce point de vue, est-ce que c'est ce qui vous permettait aussi de faire un roman et pas un récit en fait ? Seulement un récit.
Finalement. Je voulais vraiment, vraiment répondre à toutes ces questions. La grande question que moi je me suis posée, c'est comment ça se fait que ces services combattants, le KGB, c'est pas des enfants de cœur, ils sont bons. Comment ça se fait qu'ils ont mis 6 ans à choper cette espèce d'intellectuel qui marche très lentement dans la rue? C'est pas un espion, mon père. C'est pas ils ont mis plus.
Vous vouliez montrer le mécanisme de la traque, quoi.
Oui, ouais. Ils ont mis plus de temps à le prendre lui qu'un énorme espion comme Oleg Penkovsky, dont je parle. Et c'est quand même dingue. Il était astucieux, hein. Il était pas un enfant de cœur. Il a pas claironné partout qu'il était à Bramterz. Mais quand même.
Mais c'est un roman.
Oui, c'est un roman, tout simplement, parce que quand j'ouvre le tiroir de la table du lieutenant Ivanov, c'est à moi de décrire ce qu'il y a dans ce tiroir, de sa table, mais je n'en suis pas certain. J'ai tout un tas de faisceaux d'indices, et je voudrais que ça soit crédible, que ça soit parlant, que ça soit vrai, mais je n'ai pas été dans le tiroir de la table du lieutenant Ivanov.
Vous avez été dans ses bras. C'est un roman aussi, votre livre, Régis Geoffrey, et non pas seulement un récit, c'est marqué roman. Et je disais tout à l'heure que la fiction permettait tout, vous allez plus loin, vous, en arguant dès l'exergue de ce livre, que la réalité justifie la fiction. Et c'est d'ailleurs par la réalité que commence cette histoire, un document d'archives, un documentaire sur la police de Vichy, dans lequel, soudain, vous êtes chez vous, vous regardez la télé, et vous apercevez votre père, donc Alfred Geoffrey, qui sort menotté de l'immeuble familial, escorté par 2 gestapistes qui vont probablement le faire entrer dans une voiture qui est garée devant. Et d'ailleurs, cette séquence, on la retrouve reproduite sur la jaquette de votre livre, sous la forme de 8 photos, un petit découpage de la séquence. Que fait votre père menotté? Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il n'en avait jamais parlé. Vous cherchez, vous questionnez ses proches, vous enquêtez, vous imaginez aussi. Et ce livre se fait presque sous les yeux des lecteurs. On vous voit construire vos souvenirs, avouer vos erreurs aussi. Vous confessez par exemple que vous êtes laissé aller à raconter une inondation à Florence. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on vous voit moins recomposer les circonstances qui ont préludé à cet événement dramatique, qui est l'arrestation, que fouiller dans votre mémoire pour tenter de reconstituer l'empreinte floue en fait que ce père y avait laissé, imaginer plusieurs versions d'un même souvenir, parfois, d'une même scène, d'un même père. Car après tout, comme vous le dites, on a bien le droit de rêver son père. Alors quel est le sens, Régis Geoffrey, de cet exergue qui n'est pas signé d'un autre écrivain, comme souvent on fait, qui n'est pas signé parce qu'elle est de vous? La réalité justifie la fiction. Est-ce que c'est une façon d'autoriser l'écriture, dans son sens large du terme, que d'assumer explicitement dans le texte la part d'incertitude et la part de fiction, quand bien même ça part d'une situation réelle, d'un document qui débarque sous vos yeux et qui est un document historique?
Ben, je me suis dit, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, la réalité justifie la fiction, parce que je trouve pas qu'elle la dépasse. Je trouve qu'elle la justifie parce que imaginer ce qui est arrivé à mon père, c'était imaginable. Simplement, on aurait dit c'est invraisemblable. Et quand on dit elle dépasse la fiction, non, c'est simplement qu'on a tendance un peu à la refuser en tant que fiction. On a refusé peut-être aussi de se laisser aller à l'imaginaire tel que on pouvait se laisser aller à l'imaginaire du temps des contes, par exemple, ou du temps des fabliaux, ou du temps de la tragédie grecque, etc. C'est quelque chose qui a été perdu. Quant au fait que ce soit un roman, moi, personnellement, j'aurais préféré que ça ne soit pas un roman. J'aurais préféré pouvoir parler de mon père, avec des souvenirs, raconter des souvenirs de mon père. Alors ça aurait été, entre guillemets, un montage inconscient de souvenirs, comme les gens. Moi, les gens qui m'ont toujours parlé de leur père, bon, ben voilà, je comprenais, il n'y avait aucun problème. On raconte mon père, etc., etc. Et moi, j'ai un problème, je l'ai toujours eu depuis que j'ai été enfant. C'est qu'est-ce qui fait ton père? Je savais pas trop quoi dire. Alors je disais ce qui était marqué dans l'annuaire en sachant que c'était pas vrai, industriel, parce qu'il avait donc, comme je l'explique, il avait été gérant de paille en gros. Il était sourd, alors ça a amusé, ça a toujours amusé les gens, et en plus les gens y croient pas, il n'est de sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bon, en plus il était bipolaire, alors je savais pas le nom à l'époque, et peut-être lui non plus, mais enfin il était sous Aldol, l'haloperidol des cliniques psychiatriques russes, donc il était complètement...
Point commun, utilisé d'ailleurs par le KGB, voilà, pour assommer les dissidents.
Annulé en tant qu'homme, il lui restait... Donc moi j'avais plus beaucoup de pères, j'en avais presque plus, et moi j'aurais préféré raconter la vie de ce père. Et là, ça m'a... J'aurais jamais imaginé en fait parler de lui, parce que ça aurait été trop dur. D'ailleurs, c'est un livre qui a été très difficile à écrire sur un plan humain. Parce que, en plus, j'essayais de lui trouver des points positifs, quoi. Donc, il y a eu cette arrestation. Moi, au départ, le livre, c'était une quête pour aller jusqu'au bout et trouver la vérité.
Que vous n'avez pas trouvé.
Mais la vérité est introuvable parce que les archives de la Gestapo ont été détruites, comme à peu près toutes les archives de la Gestapo du monde. Pas toutes, mais quand même. Et les archives départementales de la police, ils ne figuraient pas dans les dossiers.
Mais est-ce que finalement, ça n'a pas été une aide? Parce que tous les deux, donc, vous prenez, effectivement, le prisme de la fiction pour parler de votre père. Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait que vous parlez de votre père, et que c'est un sujet, finalement, ça devient commode, la fiction. Pour parler du père, c'est difficile de parler de son père, vous venez de le souligner, Régis Geoffrey. Finalement, en assumant le droit d'inventer, ou de prendre un autre point de vue, ce que vous faites, Yegor Grad, c'est-à-dire faire parler, en gros, pour aller vite, les bourreaux, quoi, et non pas la victime. Vous, Régis Geoffrey, en assumant aussi le fait que vous allez reconstituer des souvenirs, puis peut-être en inventer, est-ce que c'est finalement pas pour rendre possible le livre, parce que ça serait compliqué d'écrire sur la figure d'un père, quoi?
Non, non, parce que j'ai avoué mon père ce que j'avais jamais fait. Tiens, ça, je l'ai pas écrit dans le livre, mais ça me vient à l'esprit. Je l'ai avoué.
Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai avoué?
J'ai avoué mon père. J'avais jamais avoué mon père. Même mes enfants, je ne savais pas. Il était mort avant leur naissance, mais ils savaient pas qui c'était. Ils savaient qu'il était sourd. C'était la personne dont on ne disait rien, mais bon, à part que moi, je l'ai avoué en tant que père par rapport à moi.
Parce Et vous l'avez avoué comment, alors? Parce que généralement, on avoue une faute.
Oui, parce que quand on est
qu'est-ce
enfant.
Qu'est-ce que vous avouez, alors?
Ben, j'ai avoué parce que quand on est enfant, moi, quand j'étais enfant, sa surdité, c'était ma faute, et sa bipolarité, qu'on n'appelait pas comme ça, c'était ma faute. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrivait comme malheur dans sa vie, c'était ma faute. Et c'était moi qui ne portais pas ça sur mes épaules.
Donc c'est un livre sur vous, au fond. Quand vous dites « j'ai avoué mon père », c'est un livre sur un aveu, sur l'aveu de...
Non,
l'aveu de l'écrivain.
Je crois pas, non, c'est un livre vraiment sur mon père. C'est mon père avec ce que j'en avais de père, c'est-à-dire fort peu.
Vos deux livres prennent la forme d'une enquête, hein, aussi, parce qu'il y a l'histoire des points de vue, l'histoire de la fiction, mais vraiment de l'enquête, d'enquête sur le père. Cette enquête qui semble être parfois une forme de prétexte, au sens noble du terme, hein, pour de prétexte, pour écrire ce roman, qui alimente la dynamique du récit. D'ailleurs, c'est ce que disait votre père, Yegor Gran, quand il parlait de Tchekhov, pendant son interrogatoire de dynamique du récit. En quoi était-il nécessaire de mettre en place justement ce mécanisme de l'enquête, une forme de suspense narratif? Est-ce que c'était aussi une forme de carotte pour tenir en haleine le lecteur qui précisément n'a pas connu
Pour moi, déjà, c'était un matériau formidable dans lequel j'ai adoré me plonger. Je me suis régalé. Imaginez ce qu'est une école du KGB. Voilà, sub de K. Comme on l'appelle, comme les Russes l'appellent. C'est une traduction littérale.
Ah oui, c'est pas un jeu de mots du monde.
Non, avec subdeco, bien sûr, j'y ai pensé, ça m'a fait rigoler.
Croyais,
mais
subdeka,
en russe, on dit vrushka, vrushko KGB, donc vrushka, et c'est la traduction littérale, subdeka, si vous voulez traduire. Alors, le truc fascinant, mais c'est mieux que Poudlard, subdeka, c'est que vous apprenez l'art de la filature, l'art de travailler votre réseau d'indiques, le français, l'anglais, vous pratiquez les micros.
Le fait que le livre procède comme une enquête, petit à petit, on progresse vers, et à la fin, on chope
le KGB.
La proie.
C'est comme Agatha Christie, vous avez un meurtre, il faut trouver le coupable. Là, vous avez un texte qui a été publié par la revue Esprit en février 59. Il faut choper le coupable. Et ce qui est passionnant, c'est voir comment ils y arrivent et comment ils le rament.
Donc, saviez que vous alliez écrire ça comme ça, sous la forme d'une enquête dès le départ?
Dès le départ, oui et non, parce que moi j'ai mis quand même une vingtaine d'années à trouver. C'est une histoire qui est en moi depuis toujours, mais je ne savais pas comment l'aborder. C'est une question d'attitude aussi, je ne savais pas quelle distance prendre. Et moi j'étais plutôt à l'inverse de Régis Geoffrey, qui n'avait presque aucun élément sur son papa. Il avait juste retrouvé peut-être un os, comme un égyptologue retrouve un bout de momie, il reconstitue tout le reste. Et je trouve que c'est absolument formidable, ce travail. Se réinventer le passé, c'est génial. Mais moi, au contraire, j'avais trop d'informations. Et donc je devais faire le tri de cette vie absolument foisonnante, et de cette traque.
Et c'est le point de vue qui a fait que vous avez réussi à l'écrire, justement, en prenant le point de vue des méchants, travaillant sur une enquête.
Oui, le point de vue des méchants, et toujours cette question, comment font-ils pour merder à ce point pendant 6 ans? Quand même, ils sont face à eux, un barbu qui louche et qui n'a rien d'un super-héros. Et ils mettent 6 ans à l'avoir. Pourquoi?
Et vous, Régis Geoffrey, effectivement, comme le dit Yegor Gran, vous étiez... L'enquête s'imposait, en fait, puisque de toute façon, ce document vous éclate à la figure, comme ça, dans un écran de télé, et... en fait, vous êtes obligé de la faire pour vous-même avant tout.
J'ai résisté, je sais pas comment je m'y suis mis, parce que ça m'a pas du tout été une idée du tout au départ. Je montrais cette vidéo à tout le monde, et j'étais un peu tellement estomaqué que j'avais pas idée d'écrire. Je sais pas à un moment pourquoi, mais je me suis mis à l'écrire de toute façon pour trouver la réalité de cette séquence. Et finalement, je me suis fait avoir parce que je l'ai pas trouvé, parce que ça aurait été tellement...
Mais c'est quand même une enquête, parce qu'en fait, on vous voit justement suivre les pistes les unes après les autres.
C'est une enquête, mais ça aurait été tellement mieux, moi, d'avoir découvert mon père au terme de cette enquête, d'avoir découvert quelqu'un. J'ai découvert personne, donc avec les rares éléments que j'avais, j'ai essayé d'en faire quelqu'un, surtout quand il était jeune, alors j'ai trouvé des vagues photos où il était avec d'autres gens, il avait dû avoir une vie, mais en même temps il était isolé par le fait qu'il entendait mal, ça amuse tout le monde quand quelqu'un entend mal, ça fait rire, donc j'imaginais ça, il était quand même assez replié en même temps.
Et donc la forme de l'enquête s'imposait d'elle-même, finalement, pour vous?
Oui, il y avait cette espèce d'essayer de le réinventer à cette époque où je l'ai pas connu, donc pendant la guerre. Il y avait aussi de le réinventer à une époque où il existait, parce que il a pas été complètement sourd tout le temps, il a pas été sous Aldol tout le temps, donc à un moment il a existé. Et j'ai des cousins ou des cousines qui étaient beaucoup plus âgés que moi, et quand ils me parlaient de l'oncle Alfred, ça, il n'avait rien à voir avec la personne que j'avais connue, qui était comme une chandelle éteinte. Et voilà, j'ai essayé de
le réparer, parce que vous utilisez ce verbe.
Oui.
Est-ce que je suis né pour réparer mon père?
Ben oui, je suis né avec un père tout cassé. Et en même temps, vous savez, un père dans une société, c'est un père.
Ouais. Non, mais en tant qu'écrivain, je veux dire.
En tant qu'écrivain, c'est loin. Alors après, moi, en tant qu'écrivain, à mon âge, je suis pas de ceux qui disent on est toujours l'enfant qu'on a été. Je pense qu'au contraire, on retrouve l'enfant comme si c'était votre enfant, l'enfant qu'on était. Et c'est par rapport les fois où je suis un peu, peut-être un peu dur, un peu difficile sur cette solitude de cet enfant. C'est parce que vous vous dites, il faut que je le dois à cet enfant qui n'est plus vous, mais qui est un véritable enfant. Et en même temps, votre père devient un personnage auquel il faut aussi, qu'il faut sauver. Alors c'est peut-être une vision très chrétienne, mais vous vous retrouvez vraiment...
Il est question du catholicisme de votre père.
Vous vous retrouvez avec le petit, le petit qui à l'école, on va se moquer de lui, le petit qui n'a pas eu de cadeau de son père. J'ai été couvert de cadeaux, mais cadeau de mon père, il m'a jamais rien offert, même pas un bonbon.
Mais il fallait le sauver par ce livre.
Il fallait rien, c'est ce que j'ai fait petit à petit, vous savez, quand vous êtes par rapport à votre repères, quand vous en avez eu tellement peu, vous faites ce que vous pouvez, comme souvent dans la vie. Mais en tant que père, soi-même, on fait ce qu'on peut. On fait le meilleur qu'on peut, mais on fait ce qu'on peut. Et mon père a fait le plus qu'il pouvait, tel qu'il était, c'est-à-dire presque rien.
Presque rien sur presque tout. On continue avec vous, Yegor Gran et Régis Geoffrey. On poursuit cet échange en entrant un peu plus dans vos livres. On va commencer par vous, Yegor Gran, et par ces services compétents que vous publiez chez POL. Mais d'abord, on écoute votre choix musical, Les cordes d'argent de Vladimir Vysotsky.
France Culture. Le temps des écrivains. Christophe Onodibio.
Струны, я зароюсь в землю, скину в одночасье. Кто бы заступился за мой возраст юный? Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Но гитару унесли, с нею и свободу. Упирался я, кричал: сволочи, паскуды, вы втопчите меня в грязь и бросьте меня в воду, только не порвите серебряные струны. Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду, только не порвите серебряные струны.
Vladimir Vysotsky, Les cordes d'argent, c'est le choix musical de Yegor Gran qui publie Les services compétents chez POL. Vysotsky, qui étudiait à l'école de théâtre du RAT, où enseignait encore votre père le jour même de son arrestation, et que vous mettez en scène dans le livre, Vysotsky. Un petit mot sur cette chanson, précisément.
Vous l'avez entendu, c'est une sorte d'émotion, mais de rage contenue, faite avec trois fois rien, avec trois accords de guitare, et juste cette voix prenante, excessivement émouvante. Et les paroles, en plus, si vous les comprenez, ces cordes d'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un type qui a une guitare, les cordes d'argent, c'est ça, c'est ses cordes de sa guitare, et il supplie, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, mais surtout, ne déchirez pas les cordes d'argent. Donc en fait, c'est vraiment l'art. C'est-à-dire, vous pouvez me tuer, ne supprimez pas ma faculté de créer. C'est tout ce que je vous demande.
Alors, Service compétent, donc, c'est le titre de votre dernier livre, paru chez POL. C'est un récit sur votre père, l'écrivain Andrei Sinavski, écrivain dissident qui s'échinait sous le nom de Abraham Tertz à faire passer, et qui a réussi d'ailleurs, ses nouvelles fantastiques en Occident, dans lesquelles il ironisait sur le réalisme socialiste. Et tout le livre raconte comment les services de renseignement dans la Russie soviétique des années 60 vont enquêter sur ces fuites de manuscrits. Qui est Abraham Tertz? Vous les mettez en scène, le lieutenant du KGB Ivanov, un indique en forme d'écrivain raté qu'on appelle Monocle, et votre père, un écrivain donc dissident, car c'est lui qui se cache sous le pseudonyme d'Abraham Tertz. Et on les voit jouer à Attrape-moi si tu peux au sein de cette bureaucratie tentaculaire, mais qui prend l'eau à l'époque du roman. On est en 65 quand il est arrêté. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est le point de vue que vous prenez. C'est-à-dire que au lieu, on aurait pu penser que vous nous racontiez ça du point de vue des victimes, du point de vue même de sa femme, votre mère, qu'on voit dans le texte, et qui d'ailleurs, quand les agents arrivent chez elle pour lui dire que son mari était arrêté, tient bon, joue jeu d'ailleurs, et vous donne, vous avez 9 mois, vous met dans les bras de cet agent Ivanov, donc qui a existé. Vous auriez pu choisir le point de vue finalement des traqués, et vous avez choisi de nous faire entendre l'autre camp, ceux qui ont traqué votre père, qui sont responsables de la tragédie familiale. Je rappelle que le texte qui fuit est paru dans la revue Esprit, traduit mondialement, et que, évidemment, c'est la panique dans le camp soviétique. Mais vous avez choisi justement le camp des méchants, ceux qui traquent. Et la question que je voulais vous poser, c'est l'humour.
Hein, on a parlé tout à l'heure du Grand Prix de l'Humour Noir, vous l'avez eu, comme Régis Geoffrey d'ailleurs, qui est là dans cette émission. Vous avez choisi aussi le burlesque, alors que c'est un moment particulièrement tragique. En quoi était-il important de donner cette coloration humoristique, je veux dire, au roman, et même de jouer sur le grotesque? Et même le personnage de la mère joue la comédie, se moque de ça, joue aussi dans le grotesque avec eux, alors qu'il est question, quand même, tout ça se solde par un internement dans les camps soviétiques pendant plusieurs années pour votre père.
Oui, alors vous avez dit, j'ai choisi le camp des méchants. Enfin,
entre guillemets, c'est-à-dire entre que guillemets. Voilà,
Mais pourquoi je l'ai fait? Parce qu'ils sont humains. Oui. Ils sont méchants, certes, ils sont idéologues, ils ont une formation en marxisme-léninisme excessivement poussée, puisque c'est la nouvelle voie du KGB. On ne recrute pas seulement des sadiques, mais aussi des types vraiment à l'idéologie parfaite. Mais ils sont humains. Humain, ça veut dire qu'ils font des fautes. Humain, ça veut dire qu'ils peuvent être touchés même par des sentiments. Humain, ça veut dire que... Et pourquoi ma mère le fait, elle le sent bien? Pourquoi elle me met, alors que j'ai 9 mois, dans les bras de ce lieutenant Ivanov? Parce qu'il ne faut pas que ces gens qui viennent perturber sa vie et fouiller chez nous, il ne faut pas qu'il trouve dans les murs encombrés de livres, qu'il trouve les livres qui seraient un peu dangereux. Oui. Enfin,
radioactifs, voilà, vous dites.
Voilà. Ouais. Et donc, elle sent bien que ce lieutenant n'est pas très expérimenté, il est encore jeune, et par un instinct infaillible, elle me prend, elle me met dans ses bras pour l'occuper, pour le déstabiliser.
Mais vous aussi, vous avez dû être humain, encore plus humain d'ailleurs dans ce texte, puisque vous avez dû faire preuve d'empathie au sens le plus, j'allais dire, cru, c'est-à-dire nous donner à ressentir, à nous lecteurs, ce que ressentent justement ces personnages d'agents qui viennent quand même brimer la liberté des artistes. D'empathie certes, curieuse, comme le dit l'un des personnages.
Certes, ils viennent brimer la liberté, mais ils sont confrontés à un dragon qui est ma mère. Les psychanalystes à 3 francs 50 pourront tirer tout ce qu'ils veulent de cette image. Mais en effet, ils font face à l'imprévu. C'est-à-dire que ma mère ne réagit pas du tout comme le ferait une femme de dissident classique. Mmh. Elle ne prend pas la pose de martyr, par exemple. Ce qui est justifié hein, pour les autres. C'est pas du tout que je critique quoi que ce soit, bien entendu. C'est un événement tellement déstabilisant, tellement effroyable qui se produit quand vous êtes arrêté. Mais elle, d'instinct, elle est joueuse, extrêmement extravertie aussi, limite inconsciente. Elle prend d'instinct le côté humain et se dit, ils vont faire des fautes, et moi, il faut que la bataille ne fait que commencer, il faut que je capitalise sur la moindre petite erreur qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, les bandes de Vysotsky, ils vont saisir les bandes de Vysotsky que ma mère a enregistrées sur son magnétophone, et ils vont les égarer, et ma mère, plus tard, à le procès passé, viendra les réclamer, dira, voilà, dans le protocole de perquisition, vous les avez confisqués, où sont-elles? Et les services compétents, les services du KGB, vont être tout penauds, en se demandant, mais mince, où est-ce qu'on les a mis? Et finalement, ils seront retrouvés, mais j'imagine qu'il y a des gens qui vont
Oui, vous imaginez, vous vous mettez à la place d'Ivana, vous dites « nous ». En fait, la situation de dénonciation, c'est nous. C'est nous le KGB, quand vous faites parler vos agents du KGB, ils disent, reprenant Sun Tzu et l'attribuant à Souvorov, il faut connaître son ennemi. Est-ce que ce livre, il est fait aussi parce que vous vouliez donner à connaître le fonctionnement de ceux qui ont été quand même les ennemis de la liberté dans un régime qui ne tolérait pas, notamment la création, l'ironie?
Il y a ça, évidemment, mais aussi l'idée de faire comprendre ce qu'est cette époque. C'est-à-dire que on n'est plus sous Staline, où on ne pouvait pas jouer avec le NKVD, avec Staline. C'était clair, c'était la mort certaine, et même quand on n'était pas coupable. Là, ce n'est plus pareil. C'est une époque où on peut jouer avec l'esprit des lois. Il y a une loi, la loi soviétique, où on fait semblant de la respecter. Et donc, quand on est joueur comme ma mère, on peut essayer de les mettre face à leurs contradictions et voir ce qu'on peut en tirer.
Mais vous, Yegor Gran, qu'est-ce qu'il avait envie de faire?
Eh bien, j'avais envie de choper cet instant d'hésitation. Ce truc extrêmement bizarre qui arrive pas souvent dans l'histoire. Souvent, l'histoire suit des trucs vraiment, des chemins vraiment prédéterminés, comme une rivière. Elle ne va pas se détourner et commencer à... Voilà. Mais des fois, si. Et il se trouve que c'est une fenêtre dans l'histoire de l'Union soviétique, on va dire 58-65, avant Brejnev, Khrouchtchev, late Khrouchtchev, early Brejnev, où l'histoire hésite. Et tout aurait pu tourner justement du côté peut-être plus d'ouverture, par exemple, plus de chaleur.
Et le romancier que vous êtes, c'est ce qui l'intéressait.
Ah oui, c'était ça qui m'intéressait. Voilà. Et comment comprendre cette hésitation mieux qu'au sein même de ce système qui hésite. Pourquoi ils ont un problème avec Pasternak? Parce qu'ils n'ont pas eu d'ordre précis sur Pasternak. D'un côté, ses poèmes sont publiés, mais d'un autre côté, on interdit Docteur Jivago. Alors, que faut-il faire?
Alors, il y a un agent qui reproche justement, puisque vous parlez de Pasternak, de pourrir l'utopie.
Oui.
Est-ce que c'est pas justement une définition possible de la littérature partant d'illusions collectives? Pourrir l'utopie.
Ah mais moi je suis sûr que la littérature est un acte criminel, presque de guerre. Enfin je voudrais que cela se soit ainsi. On est des criminels, Régis et moi.
En tout cas on est condamné en France comme on l'était en Union soviétique, même si c'est pas au camp.
Voilà.
Mais quand même les romanciers, il y a une législation en France uniquement pour les romanciers. C'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence qui dit par exemple, je la cite, le romancier n'a pas les mêmes droits qu'un journaliste, car le journaliste est là pour informer et le romancier pour le divertissement du lecteur. Quel mépris.
On va vous écouter lire, Yegor Gran, un extrait de ce service compétent, donc ce roman d'espionnage qui concerne quand même votre père, André Sinyavsky. J'ai choisi un passage justement où on voit aussi l'absurdité de certains dialogues au cours de cette enquête, c'est-à-dire qui est Abraham Terts, une sorte d'enquête sur un écrivain.
Oui. À la fin de l'automne 1959, les services apprennent la publication à Paris, dans la revue de la dissidence polonaise Kultura, d'une nouvelle écrite par le même anonyme. Enfin, anonyme, ce n'est plus tout à fait vrai. L'homme a maintenant un pseudonyme, il se fait appeler Abraham Terts. Ivanov s'y colle à nouveau. Cette fois, c'est facile, le texte est en russe. Sous le titre « L'audience est ouverte », on y parle de procureur et d'adultère. Des scènes de nudité féminine fleurissent dès le deuxième chapitre. On y voit aussi le mot « trotskisme » sur pas mal de pages, ce qui n'est jamais bon. Pourquoi mettre du sel sur les plaies? Le tout se termine dans un camp, à la Kolyma. Aucun doute possible, ce récit dégoûtant n'aurait jamais pu être publié en Union soviétique. Ce nom, Abraham Terts, est inconnu des services. Ivanov vérifie par acquis de conscience les annuaires de Moscou, Leningrad, Kiev, Kazan. Il arrive parfois que des illuminés, particulièrement naïfs, signent les tracts anti-soviétiques de leur vrai nom. Ce n'est pas le cas d'Abraham Terts. Ils en discutent à la cantine devant leur assiette de soupe aux choux. « Faut essayer les anagrammes », suggère Koulakov. « Le narcissisme des gens de l'art étant ce qu'il est, il est proprement impossible pour eux de ne pas signer leur œuvre. C'est obligé. Terts, c'est peut-être le nom d'un grand-père, ou alors ce sont les initiales, A et T, qu'il a gardé de son vrai nom. » Shmakov s'esclave. « Moi, ce que je vois surtout, vous m'excuserez d'appeler un chat, je vois surtout qu'il est juif. » Tout le monde est d'accord. Abraham Terts, on ne fait pas plus juif. Shmakov, Koulakov et Ivanov étant tout à fait russes, eux. « J'ai remarqué un truc, » dit alors Shmakov. « Les spéculateurs, ceux qui traînent autour du quai Sainte-Sophie, eh bien j'ai remarqué qu'ils étaient tous juifs dans la majorité. »« Surtout les plus riches, » dit Koulakov. « Ce sont les plus roublards. » Ivanov pense alors à un détail. Au début de l'audience est ouverte, le personnage du procureur tient des propos sur... Alors d'instinct, il baisse la voix. « Sur Trotsky. » Il remarque que Trotsky est juif. Shmakov est outré. « Il n'était pas juif, Trotsky. C'est de la propagande antisoviétique. » Soudain, comme une ondée, ils prennent conscience qu'ils ont un peu trop parlé de Trotsky. Alors ils se dépêchent de finir la soupe, qu'ils entassent au bide avec une portion de cacha au sarrasin, joliment préparée avec des oignons, une tranche de pain noir et hop! L'anagramme est une idée. Ivanov passe du temps à fouiller les annuaires à la recherche d'un Marbrestat, d'un Tabar Merz, sans résultat. Quant au A, T, il y en a des millions. Et des juifs, n'en parlons même pas!
Merci Yegor Gran. Les services compétents, c'est chez POL. Une dernière question. On voit, c'est l'une des lignes de force du livre, que par exemple le juge d'instruction puise ses conclusions dans les livres d'Agatha Christie, que Ivanov doit résumer un article d'esthétique, qu'il s'agit aussi de comprendre les enjeux des courants littéraires de l'époque. C'est presque un professeur ou un étudiant, disons, en littérature qu'il devient. Il s'agissait pour vous aussi de faire un livre sur la littérature et de montrer comment à la fois elle est un instrument de combat, mais aussi comment finalement, quand on combat les écrivains, on est conduit à se plonger dans les textes et à faire de l'analyse littéraire.
Quand on combat les écrivains et qu'on veut suivre la lettre du droit, on est démuni. imaginez, vous n'avez jamais trop lu le livre, c'est pas trop votre truc, vous ce que vous aimez c'est taper sur les gens, et vous vous retrouvez devant des étagères et des étagères avec des centaines de milliers de livres et des documents, vous les ouvrez, c'est de la poésie formaliste, vous n'y comprenez rien, et vous ne savez même pas si c'est soviétique, anti-soviétique, vous ne comprenez pas, au bout de trois mots, vous êtes perdu. Comment vous faites? Donc il faut les plaindre, ces pauvres...
On retourne à l'école, voilà. De la littérature.
Voilà. Il faut avoir des indices.
On disait tout à l'heure, pourrir l'utopie, Régis Geoffrey, vous aimez bien ça, pour définir peut-être ce que font les écrivains. Quand Yegor disait « on est de grands criminels », pourrir l'utopie, c'est ça le but de la littérature.
Moi, je suis un innocent en fait, parce que je sais pas, je fais un peu le contraire de ce que je fais ou de ce que les gens pensent que je fais.
Oui, parce qu'on vous voit comme un cruel, non, mais noir.
D'abord, ouais. La prochaine fois qu'on me traite de cruel, pour le coup, je fais un procès parce que non, mais on dit que je suis cruel. Moi, je suis pas cruel. Je suis pas un homme cruel. Ouais. Non, mais je veux dire les hommes
cruels.
Mais
pourrir l'utopie, c'est pas mal ça.
Oui, c'est très bien. Mais j'ai pas quelle utopie on a tellement à notre époque. Dans ma jeunesse, il y en avait une qui était déjà bien mal en point. Donc, non, je pense que on ne sait jamais ce qu'on fait. Ça, c'est une
déranger règle. L'ordre, disons. Pourrir l'utopie, à l'époque, c'était l'utopie soviétique. Ben, c'est-à-dire que... si on la pourrit, c'est qu'on dérange un peu le rêve ou l'inconscience.
Ben, je constate que la fiction, en France, parce que je connais pas le reste du monde, dérange beaucoup. C'est très curieux ça, parce que quand même que la fiction dérange plus que le réel, que ça se trouve même dans la loi, c'est quand même extrêmement curieux. Ça, je ne savais pas.
Vous l'expliquez comment alors ça ?
Je pense que de toute façon, la fiction est en train de mourir en cela qu'on ne peut plus imaginer que la fiction soit la fiction. C'est-à-dire que maintenant, on est sûr que la fiction, en fait, c'est du réel. On est sûr que vous avez produit des choses réelles comme si vous aviez eu accès à des documents réels ou comme si vous aviez menti. C'est-à-dire que c'est plus la fiction, parce que ça, dans la vie courante, on a des menteurs. Et là, on est un peu considérés comme des enfants menteurs.
Quand on fait de la fiction, aujourd'hui.
Oui, parce que, ou alors on dit, mais en réalité, vous racontez cette histoire, mais cette histoire, elle est vraie, et de toute façon, vous êtes cruel. C'est-à-dire que un auteur comme Simenon, qui est un immense auteur, qui n'a pas écrit que ça, mais qui a écrit des romans policiers, on pourrait le traiter d'assassin. Mmh. C'est très curieux, parce que maintenant, c'est celui qui dit qu'il est. C'est très étrange. Et ça, la fiction est en train de disparaître. Quand vous voyez que les comiques, maintenant, on n'imagine jamais qu'ils sont dans la fiction, mais qu'ils sont toujours dans le réel. Finalement, la fiction est un domaine qui devient dévasté sur ce plan-là et qui va devenir vraiment une sorte de tabou parce que on n'aura le droit d'écrire de la fiction que si elle est conforme à ce qui pourrait arriver de façon noble et conforme aux droits de l'homme dans le réel.
Oui, et sans parler aussi d'écrire de la fiction que si on est censé pouvoir l'avoir vécu, c'est-à-dire... On accuse aujourd'hui les certains artistes d'appropriation culturelle. En gros, vous ne pouvez pas écrire sur telle ou telle situation si vous n'avez pas vécu.
Fiction est presque illégitime. Oui. C'est exactement ce que vous avez dit. Je suis 100% d'accord.
Alors, est-ce que c'est pour ça, Régis Geoffrey, que Papa a été écrit? Parce que Papa, qui paraît aux éditions du Seuil, est un roman qui part d'un document d'archives. Donc on pourrait se dire, donc je le rappelle, hein, vous êtes en train de regarder chez vous un documentaire sur la police de Vichy, et puis soudain, c'est vrai que ça paraît, on se dit, la réalité dépasse la fiction. Hein, vous préférez dire que la réalité justifie la fiction, c'est la phrase qui ouvre votre livre. Et en fait, vous voyez votre père, alors qu'il avait rien d'un résistant, on n'avait jamais parlé, il était à Marseille, bon bourgeois, et là, menotté, emmené par des gestapistes dans une voiture qui attend là, donc c'est un petit film hein, que vous voyez, et évidemment, vous vous demandez, qu'est-ce qu'il faisait là, menotté, qu'est-ce que je dois en déduire, alors qu'il n'en avait jamais parlé, alors qu'il n'était pas particulièrement un héros, et vous cherchez, et c'est pour ça qu'on parlait d'enquête tout à l'heure, le livre se construit comme une enquête, mais selon qui mènera... finalement, nulle part, qui mènera à ce beau livre. Mais en tout cas, vous ne saurez pas vraiment ce qui s'est passé. Et donc, vous imaginez. Et vous imaginez même les souvenirs que vous auriez pu avoir avec ce père. Est-ce que ce livre, il est fait pour ça? Finalement, eh bien, mon père n'a peut-être pas été un héros, mais moi, je vais imaginer des scènes où finalement, il aura peut-être été un héros parce que je préférerais qu'il eût été un héros.
C'est-à-dire, quand vous êtes un enfant démuni de choses, vous les inventez.
Je vous cite, je vous interromps, mais j'aurais aimé qu'il ait fait l'effort de mourir en héros, vous écrivez.
Oui. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, c'est comme quand on voit ces photos extrêmement bouleversantes africaines, par exemple, de gosses qui se font des téléphones portables en bois. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir ces téléphones, ils s'en font en bois. Et moi, je n'avais pas de souvenirs de mon père. J'ai eu une enfance parfaitement heureuse, j'ai été aimé par mes deux parents, etc. Mais mon père, je me suis retrouvé démuni à mon âge.
Donc on imagine. Donc en fait, comme vous êtes écrivain, parce que vous lui reprochez aussi, c'est sans ça que c'est peut-être cruel d'ailleurs, beau et cruel, poignant et cruel, vous lui reprochez finalement de ne pas vous avoir à vous, son fils, assez dit, qu'il était assez raconté. Alors c'est vrai qu'il était sourd, mais il n'était pas muet, et pourtant il n'est pas parlé. Vous êtes écrivain, vous avez les mots. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cette phrase réparée, Alfred, suis-je né avec pour seule mission de te réparer. Au fond, on existe pour vous que si on forme du récit ce que vous avez fait, vous, du coup, sur lui.
Vous comprenez, mon père, il m'a jamais parlé, c'est tout. C'est pas un reproche, c'est un état. C'est comme de dire qu'il était sourd et sous Aldol, c'est factuel.
Non, mais vous les donnez, ces mots-là, puisque vous en faites un livre. Vous lui redonnez une existence qu'il n'avait pas eue parce qu'il savait pas parler. Et que vous pouvez le faire.
Il savait très bien parler, mais je veux dire, il m'a pas parlé comme un père parle à son fils, voilà. Et il m'a très peu parlé dans ma vie. Donc j'essaie de l'imaginer, parce que j'en ai besoin. On a besoin d'un père. On a besoin d'un père et on a besoin même, je me suis aperçu d'un grand-père pour ses enfants. Et là, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un aveu. Ça me coûtait beaucoup. Parce que, d'ailleurs, ça me coûte beaucoup d'avoir l'air de faire du pathos avec ça. Et je voudrais pas que je sois plein, parce que je suis pas un enfant à plein.
Non, mais vous le dites suffisamment dans le livre, que l'enfance était merveilleuse.
Voilà. Donc, et d'ailleurs, il faut toujours dire qu'on a eu une enfance merveilleuse. Je crois qu'il faut dire que son passé a été merveilleux le plus possible. Parce qu'il y a tellement de passés lamentables et terribles. Je parlais de l'Afrique, mais dans d'autres pays, des pays en guerre. Vous savez, c'est peut-être élégant, en fait. On pourrait se dire, on a une enfance merveilleuse parce que c'est élégant. Voilà, pourquoi pas.
Mais sur le fait de lui redonner, finalement, par les mots que vous maîtrisez, par les récits, vous parlez beaucoup, vous arrivez à parler de vous, vous arrivez à faire parler des personnages imaginés comme des personnages réels, vous faites les deux. Y avait besoin de lui redonner, justement, les mots qu'il vous avait pas dit pour les écrire, c'est sauvé. Pour lui, on a l'impression qu'en fait, vous redonnez une existence à ce père et qu'à vos yeux, il n'en avait pas, en fait, vraiment, parce qu'il n'en parlait pas.
C'est-à-dire que moi, j'ai connu, donc, à la fin de sa vie, évidemment, ces 30 dernières années de vie, puisque moi, j'avais 30 ans quand il était décédé. Et j'ai parlé de ce que j'en avais de ce père. J'en avais très peu. C'est comme si vous avez vu une scène fugitive, donc vous allez être obligé de tirer des conséquences. C'est pas tellement l'imagination, c'est la déduction de me dire parce que j'ai vu enfant partir le piano. Je me rappelle très bien qu'il y avait un piano avec des chandeliers et qu'à un moment il est parti à la salle des ventes. Donc mon père jouait du piano sans avoir appris la musique comme certains qui savent à l'oreille jouer du piano. Et à un moment, ma mère a mis ce piano en vente parce qu'il faisait plus de mal que de bien, parce qu'il tapait très 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 fort sur le piano et il n'entendait plus aucun son. Ça, c'est un élément réel. Quand je l'ai vu partir, après je raconte des choses réelles, des choses qui étaient très dures.
Vous diriez que c'est un tombeau de mots pour lui,
c'est ça? Un cénotaphe, on va dire, puisqu'il n'y a pas son corps. Ouais. Oui, on peut considérer ça comme ça.
Il avait le droit à un récit, en fait.
Ben, moi, j'ai quand même eu l'impression que c'était, j'ai quand même l'impression de lui écrire, vous savez, on dit honneur, ton père est à l'air, de lui avoir fait honneur. Et je suis assez ébloui quand je vois dans la presse écrit Alfred Jauffré. Ouais. Parce que je me dis, cet homme, finalement, qui était rien socialement, etc. Il est dans les journaux et tous ces gens qui étaient autour de lui, qui étaient socialement beaucoup plus, eh ben, ça viendrait à personne l'idée de mettre son nom. Et je me dis que je pense qu'il dirait rien, mais qu'il serait content. Et le fait de, parce que je sais pas, ça me vient à l'esprit, mais la première fois que je suis passé à la télévision, donc il était vivant, il regardait et il demandait à ma mère, est-ce qu'on dit son nom, est-ce qu'on dit qui il est? Et je me suis dit, là, dans les journaux, on dit Alfred Jauffré.
Il aurait été content, Igor Gran, André Sinyavsky, de lire ce livre. Vous y avez pensé en écrivant, ça, justement. Il a besoin, non pas, c'est pas là, vous faites non, plus moi, un, je, une
moi,
enquête
moi,
sur lui.
Moi, je pense qu'il aurait été surtout heureux d'apprendre que je suis devenu écrivain. Parce qu'il était persuadé que j'ai fait des études scientifiques, il était persuadé que je serais ingénieur, et ça le tuait, littéralement. Voilà, c'est un des plus grands regrets de sa vie, c'était ça. Et donc, il est mort la même année où j'ai sorti mon premier livre. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je m'appelle Gran.
Mais c'était pas un livre. Oui, parce que.
Parce qu'il était en train de mourir. Il avait le cancer. Je l'accompagnais tous les jours à l'hôpital parce qu'il parlait pas français. Hein, donc, il fallait que je m'occupe de tout ça. Et je le voyais dépérir et je me voyais mal. Claironné avec son nom à lui sur un livre. Voilà, donc j'ai aussi, il y avait ça.
Un mot sur le titre, Régis Geoffrey, Papa. Emmanuel Carrère disait dans D'autres vies que la mienne, je déteste qu'on emploie le mot maman, alors il parlait de maman, autrement qu'au vocatif et dans un cadre privé, que même à 60 ans, on s'adresse à sa mère, très bien, mais que passé l'école maternelle, on dise maman ou la maman d'un tel, ou comme Ségolène Royal, les mamans, ça déplaisait à Carrère.
Je suis absolument d'accord avec lui, complètement d'accord avec lui, et c'est quelque chose qui m'exaspère. Parce que même des notaires, ils vous disent votre papa, votre maman, c'est grotesque. Ouais. Simplement, là, justement, papa, c'est le. Au terme de ce livre, je suis arrivé à gagner le droit de dire papa. Parce que ça se termine par non, papa, champagne.
Voilà.
Et là, c'est pour ça que j'ai gagné. On a gagné après la fin du livre de se dire papa, mais c'est dans le contexte dont parle l'auteur que vous citez, dans un contexte extrêmement privé. Ouais. Donc là, c'est un titre de livre, mais je suis tout à fait d'accord avec cette faction qui m'exaspère de dire papa, maman à tout bout de champ, même en dehors de le dire à des enfants, et qui laisse entendre qu'on est dans un état de tendresse totale dans une société qui est tout sauf tendre.
On écoute un extrait, Régis Geoffrey, de Papa, on vous écoute lire. Je ne crois pas aux forces de l'esprit, aux fantômes, aux prémonitions.
Je ne crois pas aux forces de l'esprit, aux fantômes, aux prémonitions. Cependant, depuis une dizaine d'années, une histoire tourne en boucle dans ma tête. En août 2018, j'avais décidé, pour faire place nette, de l'écrire sous forme de microfiction. Après avoir vu la vidéo de l'arrestation de mon père, je m'abstins. Ce faux souvenir se déroule à Marseille, 4 rue Marius Geoffrey, au matin du 10 novembre 1961. J'ai 6 ans, il est 7 heures, il fait encore nuit. J'ouvre la porte-fenêtre de ma chambre pour chercher un jouet oublié la veille sur le balcon. J'entends un bruit d'auto. Je m'approche de la rambarde. À travers les arabesques de fer forgé, je distingue une déesse noire qui stoppe devant l'immeuble. Le chauffeur ouvre la portière à un homme de haute taille qui s'extrait pesamment et pénètre dans l'immeuble. Quelques instants plus tard, par la porte entrebâillée de ma chambre, je vois Alfred filer au salon avec l'homme. Alfred ne dit mot, mais je reconnais la voix de Charles de Gaulle, que tous les enfants connaissaient à l'époque, mieux encore que Pinocchio ou le petit chaperon rouge, car il suffisait d'allumer la télévision pour l'entendre discourir ad libitum. Il parle fort, mais je ne me souviens d'aucune de ses paroles. L'entrevue ne dure pas plus d'une minute. Dans le couloir, De Gaulle fait l'accolade à mon père avant de disparaître dans la cage d'escalier. Je le vois par le balcon remonter dans sa déesse. Je ne sais pas où se trouvait Madeleine durant la visite. En tout cas, elle ne figure pas dans ce souvenir mythomane qui, faute d'être prémonitoire, pourrait passer pour le désir de faire quelque chose pour l'homme malchanceux qu'était mon père. Lui donner la dimension d'un compagnon de la libération qui, par humilité, aurait refusé médaille et renommée. De Gaulle lui-même aurait tenu ce matin-là à respecter son anonymat en lui rendant une secrète visite dont j'aurais été le seul témoin à cette heure où les habitants de la rue, trop occupés par leurs tartines et leurs bols de café, ne se souciaient pas d'observer la rue. J'aimerais tant que ce souvenir soit vrai, un souvenir oublié dans un placard pendant des décennies qui serait réapparu en se faisant passer pour une fiction. Après tout, le cerveau d'un homme a le droit de confondre le réel avec un artefact de son imagination. Il fait si souvent le contraire.
On vous sent ému, Régis Geoffrey ?
C'est la première fois que je suis médusé en m'apercevant que je parle de mon père. Je ne vais jamais parler de ma vie, de mon père. C'était même le sujet que j'ai toujours évité, même petit enfant. Parce que quand petit enfant, vous avez pris conscience que votre père, de toute façon, va être moqué ou au mieux méprisé, que vous êtes obligé de mentir pour en parler. Parce que de dire qu'il est sourd, bon, vous savez que c'est un sujet de moquerie ou de plainte.
Mais maintenant, on sait qu'il a été compagnon de la libération, finalement, parce que vous l'avez écrit, donc c'est vrai.
Je lui ai inventé ça. Mais vous savez, dans ce livre, en fait, je mens jamais, parce que quand je mens, je dis que je mens. Ouais. Pour moi, c'est extravagant. Si vous m'aviez dit il y a un an que je parlerai de mon père, mais jamais j'aurais pu parler de mon père. Jamais, pour moi, c'est l'acte le plus extraordinaire qui me soit arrivé de toute ma vie. Et en plus de l'intituler papa, c'est quelque chose d'extravagant pour moi.
Je cite une autre phrase justement très très forte, parce que vous êtes en train d'enquêter donc sur ce que vous appelez la dentelle de papa, la pincée de papa, l'épave de papa. Il y a cette phrase: à quoi servirait d'évoquer son père décédé une trentaine d'années plus tôt si c'était avec le projet cruel et prétentieux de vouloir le faire apparaître tel qu'il fut? Je veux l'apprivoiser, le poncer, passer l'estompe, l'astiquer comme une paire de vieux souliers pêchés dans un grenier. Ça veut dire quoi, l'astiquer?
De toute façon, je pense qu'on n'est pas là pour donner une image sordide de ses parents. Parce qu'en donnant une image sordide de ses parents, on donne une image sordide de soi. Et sans être nietzschéen, bon, on va contre la vie. Cette vie que on n'a que ça, parce que quand on n'est pas croyant, on sait qu'on n'a plus que ça. Donc c'est normal. Vous savez, c'est peut-être un peu simplement à une époque où quand on se faisait photographier, on mettait une veste, on essayait de se coiffer. Voilà.
Donc dans un livre sur un père, on doit ça doit être, il doit briller comme un sous neuf.
Mais je ne sais pas. J'ai fait franchement, j'ai fait ce que j'ai pu.
C'est une belle phrase.
Alors avec, comme je suis romancier, j'ai pu écrire, j'ai pu parader parce que je suis un danseur, j'ai valsé, je l'ai fait. Mais c'est invraisemblable pour moi d'avoir pu écrire ce livre. Pour moi, si on me l'avait dit avant, j'aurais dit, mais c'est pas possible.
Ouais. Vous comprenez ça? Parader, diriez ça aussi, j'ai valsé pour parler de mon père et pour aussi le montrer.
Moi, le paradoxe, c'est que mon père n'avait pas besoin de moi pour exister. Ouais. Il existait très bien, il a eu une vie absolument incroyable, faite d'aventures. Et riche, à un point trop riche, il a trop vécu.
C'est drôle, la symétrie inversée.
Et donc, il a absolument pas besoin de moi. Et donc, moi, je suis presque un usurpateur, en fait. Je suis un parasite, je me suis greffé sur sa biographie absolument extraordinaire. Ouais.
Alors, pour terminer, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Vous avez donc l'un et l'autre écrit sur votre père. Vous avez beaucoup appris, certainement, sur ce père, en essayant de savoir qui il était, en écrivant votre livre et pour écrire ce livre. Est-ce que vous n'avez pas aussi beaucoup appris sur vous, les fils? Et si oui, qu'avez-vous appris, Igor Gran?
Qu'il est excessivement difficile de parler de son père. Voilà, juste, c'est aussi bête que ça. Pourtant, moi, j'ai vécu, avec tout ce que je raconte depuis des années et des années et des années, je devais l'écrire, parce que c'est une vraie aventure, et je ne savais pas comment le faire. C'est un obstacle, c'est un mur à franchir, c'est un tunnel à creuser à la petite cuillère. Il y a une appréhension.
Bon, le tunnel a été bien creusé, bravo, Igor Gran. Et vous, Régis?
Moi, ce que j'ai appris comme événement pour moi extraordinaire, c'est que j'arrivais à parler de lui. Ouais. J'en viens pas de vous en parler aujourd'hui, j'en viens pas d'avoir parlé de lui à l'intérieur, et quand j'ai écrit ce livre, j'ai été bouleversé, alors pas par mon écriture, mais par le fait de parler. Je parlais d'Alfred Geoffrey, j'essayais pas de l'éviter comme j'ai essayé toute ma vie de l'éviter, par peur d'en parler, par peur du pathétique ou par peur de la moquerie. All I can ever be to you is the darkness
that we know and this regret I got. On se quitte en écoutant votre choix musical, Tears Dry d'Amy Winehouse. Pourquoi vous avez choisi de me faire entendre?
Parce que je l'avais vu dans un documentaire de nouvelle façon, c'est-à-dire que maintenant on peut faire des documentaires parce que les gens ont beaucoup filmé avec des portables. Et je l'avais trouvé extrêmement sympathique et je trouvais que c'est un personnage qui incarnait l'époque où elle a vécu. Comme Jim Morrison, je sais qu'elle fait partie de ceux qui sont morts à 27 ans, mais on peut pas s'empêcher de penser à Janis Joplin, etc. Toute cette.
Mais par rapport à, il y a aucun lien avec papa.
Non, mais c'est le genre de personnage. Elle est morte pour nous. J'ai toujours l'impression. Elle s'est droguée pour nous. Elle a bu pour nous. Elle est allée loin pour nous. C'est un personnage qui a souffert pour nous. C'est mon côté catholique. Winehouse, elle est morte pour nos péchés.
Et comme papa.
Eh oui. Mais papa, il l'avait pas choisi.
Alors on écoute Tears Dry. Merci à tous les deux, Régis Geoffrey, Igor Gran. Merci. Je rappelle le titre de vos livres: Service compétent chez POL et Papa au seuil. C'était Le Temps des Écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolak Paloyan, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Guillaume Ledu à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini sur franceculture.fr cette émission en compagnie de Régis Geoffrey, Igor Gran et leur père. The sky, the boat, the wave.
truck will sing no regrets and almost no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky up.